ფრანგული ენის ტესტის მოსმენის დავალება. ფრანგული ენის ტესტის მოსმენის დავალება.
Bienvenue à l'épreuve de compréhension orale du test de certification des professeurs de français. Vous aurez deux exercices. Pour chaque exercice, vous aurez deux écoutes. Vous aurez du temps avant et entre les deux écoutes. Bonne chance!
Exercice 1. Vous allez écouter une interview avec Nathalie Dessay. Complétez les affirmations suivantes par les éléments qui manquent. Un élément par affirmation. Vous écouterez l'enregistrement deux fois. Vous avez maintenant 45 secondes pour lire les affirmations. Aujourd'hui, notre rédaction vous a préparé une interview avec Nathalie Dessay, cantatrice et soprano spécialisée dans les rôles de soprano léger colorature dans l'opéra et l'opérette. Madame Dessay, vos coloratures et envolées dans les aigus sont vraiment extraordinaires. Avez-vous plaisir à être une soprano colorature ?
Pour moi, les coloratures et les aigus ne présentent pas de difficultés. En fait, j'ai plus de mal dans les graves. Ou alors, lorsque je chante des coloratures, j'ai parfois du mal à me concentrer sur le rôle. Mais j'avoue qu'être une soprano colorature, cela a quelque chose d'excitant. Pourtant, j'aimerais bien élargir mes horizons. Je rêve de devenir soprano lyrique pour pouvoir aussi interpréter des rôles plus dramatiques. Le registre des soprano coloratures se limite à des rôles qui sont soit très courts et très difficiles, soit stupides. À la longue, c'est un peu frustrant.
Dans une vidéo enregistrée à l'Opéra de Lyon, vous avez apprécié une mise en scène assez extrême. Est-ce que vous aimez les productions qui sortent de l'ordinaire ?
Oui, j'aime beaucoup ce genre de mise en scène et j'ai beaucoup appris à l'époque. Je pense que ces productions sont l'avenir de l'opéra. Aujourd'hui, on ne peut pas aborder la scène lyrique comme il y a 30 ans. Si nous voulons attirer un public nouveau, nous devons vraiment faire du théâtre, c'est-à-dire incarner de vrais personnages et ne pas nous contenter d'être debout et de chanter. Aujourd'hui, le public est très influencé par la télévision et le cinéma. La mise en scène est donc d'autant plus importante.
Avez-vous un metteur en scène préféré ?
En fait, non. Car il y a beaucoup de metteurs en scène avec lesquels je n'ai pas encore travaillé et qui m'intéresseraient. Mais il faut dire que la mise en scène demande des capacités spécifiques. Le metteur en scène doit avoir une communication appropriée avec des acteurs. À mon avis, le metteur en scène le plus réussi est celui qui arrive à harmoniser le chant et les mouvements scéniques. Dans beaucoup de mises en scène, la cantatrice est plantée là et chante. À mon sens, on pourrait en faire autre chose, mais la plupart des metteurs en scène manquent d'idées.
Vous n'avez pas peur de vous frotter à la musique contemporaine ?
Non, bien au contraire. J'ai une prédilection pour la musique du XXe siècle. Sur un CD rassemblant des airs français, j'ai choisi beaucoup de compositions du XXe siècle que je voulais absolument enregistrer sur la même bande que des airs du XIXe siècle.
Lorsqu'on regarde la liste de vos engagements, on ne voit pas beaucoup de temps libre. Est-ce que vous en souffrez parfois ?
Oui, c'est d'autant plus difficile lorsque l'on a, comme moi, une famille. J'ai un fils d'un an et demi. Souvent, lorsque je ne suis pas partie pour quelques jours, comme maintenant à Berlin, je l'emmène avec une babysitter. Mon mari n'arrive pas à m'accompagner, c'est compliqué pour lui car il est lui-même artiste lyrique et travaille beaucoup. Mais nous avons la ferme intention d'avoir d'autres enfants et de travailler moins.
Votre mari est-il votre meilleur critique ?
Oui, et c'est très important. Dans ce métier, on est entouré de flatteurs. Mais le pire, ce sont les gens qui n'y connaissent rien. J'ai mon mari et mon professeur. Celui-ci vit en France, mais lorsque j'ai vraiment besoin de lui, il arrive immédiatement et c'est très rassurant. Sans oublier mes parents sur qui je peux pleinement compter. Ils ne sont certes pas du métier, mais ils remarquent tout de suite quand quelque chose ne tourne pas rond.
Est-ce que vous lisez les critiques ?
Malheureusement, oui. Je les lis même personnellement et pour ce qui est de celles publiées en France, je les trouve souvent stupides. Elles sont rarement constructives. La plupart du temps, le critique se contente d'écrire « c'était très beau » ou « elle a bien chanté ». Cela n'est pas du journalisme à mes yeux.
Avez-vous toujours rêvé d'être cantatrice ?
Non, j'ai toujours voulu monter sur scène, c'est tout. Au départ, je rêvais d'être danseuse, comme toutes les petites filles. Mais c'était impossible, car je n'étais absolument pas douée. J'ai été très déçue. Après, j'ai décidé de devenir comédienne. Mais en France, il n'y a pas beaucoup de travail pour les comédiens et c'est dur d'obtenir un engagement. Un jour, on m'a proposé un rôle où je devais chanter et j'ai donc pris des cours de chant. Tout le monde m'a dit que j'avais une belle voix et que je devais me tourner vers le chant. En fait, je n'avais aucune envie d'être une comédienne au chômage. Alors j'ai beaucoup travaillé et Dieu merci, ma voix s'est développée. Mes parents n'étaient pas très enthousiastes au départ, mais ils m'ont beaucoup aidée. J'ai commencé à chanter dans un chœur à Toulouse à l'âge de 21 ans, puis étudié à Bordeaux et à Paris. En 1990, à Vienne, j'ai remporté le concours Mozart. Cela a été très important pour moi, même si j'avais déjà un agent et un engagement. Et puis, cela faisait très bien dans ma biographie.
Où vous sentez-vous le plus à l'aise ?
À Paris. C'est là que j'habite et j'aimerais y chanter plus souvent. Mais lorsqu'on est un artiste français, on chante partout sauf en France. Et lorsqu'on est allemand, on travaille partout sauf en Allemagne. Il semble que ce soit le cours des choses.
J'espère que tous vos projets d'engagement et de rôle se concrétiseront et je vous remercie de m'avoir accordé cette interview. Aujourd'hui, notre rédaction vous a préparé une interview avec Nathalie Dessay, cantatrice et soprano spécialisée dans les rôles de soprano léger colorature dans l'opéra et l'opérette. Madame Dessay, vos coloratures et envolées dans les aigus sont vraiment extraordinaires. Avez-vous plaisir à être une soprano colorature ?
Pour moi, les coloratures et les aigus ne présentent pas de difficultés. En fait, j'ai plus de mal dans les graves. Ou alors, lorsque je chante des coloratures, j'ai parfois du mal à me concentrer sur le rôle. Mais j'avoue qu'être une soprano colorature, cela a quelque chose d'excitant. Pourtant, j'aimerais bien élargir mes horizons. Je rêve de devenir soprano lyrique pour pouvoir aussi interpréter des rôles plus dramatiques. Le registre des soprano coloratures se limite à des rôles qui sont soit très courts et très difficiles, soit stupides. À la longue, c'est un peu frustrant.
Dans une vidéo enregistrée à l'Opéra de Lyon, vous avez apprécié une mise en scène assez extrême. Est-ce que vous aimez les productions qui sortent de l'ordinaire ?
Oui, j'aime beaucoup ce genre de mise en scène et j'ai beaucoup appris à l'époque. Je pense que ces productions sont l'avenir de l'opéra. Aujourd'hui, on ne peut pas aborder la scène lyrique comme il y a 30 ans. Si nous voulons attirer un public nouveau, nous devons vraiment faire du théâtre, c'est-à-dire incarner de vrais personnages et ne pas nous contenter d'être debout et de chanter. Aujourd'hui, le public est très influencé par la télévision et le cinéma. La mise en scène est donc d'autant plus importante.
Avez-vous un metteur en scène préféré ?
En fait, non. Car il y a beaucoup de metteurs en scène avec lesquels je n'ai pas encore travaillé et qui m'intéresseraient. Mais il faut dire que la mise en scène demande des capacités spécifiques. Le metteur en scène doit avoir une communication appropriée avec des acteurs. À mon avis, le metteur en scène le plus réussi est celui qui arrive à harmoniser le chant et les mouvements scéniques. Dans beaucoup de mises en scène, la cantatrice est plantée là et chante. À mon sens, on pourrait en faire autre chose, mais la plupart des metteurs en scène manquent d'idées.
Vous n'avez pas peur de vous frotter à la musique contemporaine ?
Non, bien au contraire. J'ai une prédilection pour la musique du XXe siècle. Sur un CD rassemblant des airs français, j'ai choisi beaucoup de compositions du XXe siècle que je voulais absolument enregistrer sur la même bande que des airs du XIXe siècle.
Lorsqu'on regarde la liste de vos engagements, on ne voit pas beaucoup de temps libre. Est-ce que vous en souffrez parfois ?
Oui, c'est d'autant plus difficile lorsque l'on a, comme moi, une famille. J'ai un fils d'un an et demi. Souvent, lorsque je ne suis pas partie pour quelques jours, comme maintenant à Berlin, je l'emmène avec une babysitter. Mon mari n'arrive pas à m'accompagner, c'est compliqué pour lui car il est lui-même artiste lyrique et travaille beaucoup. Mais nous avons la ferme intention d'avoir d'autres enfants et de travailler moins.
Votre mari est-il votre meilleur critique ?
Oui, et c'est très important. Dans ce métier, on est entouré de flatteurs. Mais le pire, ce sont les gens qui n'y connaissent rien. J'ai mon mari et mon professeur. Celui-ci vit en France, Mais lorsque j'ai vraiment besoin de lui, il arrive immédiatement et c'est très rassurant. Sans oublier mes parents sur qui je peux pleinement compter. Ils ne sont certes pas du métier, mais ils remarquent tout de suite quand quelque chose ne tourne pas rond.
Est-ce que vous lisez les critiques ?
Malheureusement, oui. Je les lis même personnellement et pour ce qui est de celles publiées en France, je les trouve souvent stupides. Elles sont rarement constructives. La plupart du temps, le critique se contente d'écrire « c'était très beau » ou « elle a bien chanté ». Cela n'est pas du journalisme à mes yeux.
Avez-vous toujours rêvé d'être cantatrice ?
Non, j'ai toujours voulu monter sur scène, c'est tout. Au départ, je rêvais d'être danseuse, comme toutes les petites filles. Mais c'était impossible, car je n'étais absolument pas douée. J'ai été très déçue. Après, j'ai décidé de devenir comédienne. Mais en France, il n'y a pas beaucoup de travail pour les comédiens, et c'est dur d'obtenir un engagement. Un jour, on m'a proposé un rôle où je devais chanter, et j'ai donc pris des cours de chant. Tout le monde m'a dit que j'avais une belle voix et que je devais me tourner vers le chant. En fait, je n'avais aucune envie d'être une comédienne au chômage. Alors j'ai beaucoup travaillé et Dieu merci, ma voix s'est développée. Mes parents n'étaient pas très enthousiastes au départ, mais ils m'ont beaucoup aidée. J'ai commencé à chanter dans un chœur à Toulouse à l'âge de 21 ans, puis étudié à Bordeaux et à Paris. En 1990, à Vienne, j'ai remporté le concours Mozart. Cela a été très important pour moi, même si j'avais déjà un agent et un engagement. Et puis, cela faisait très bien dans ma biographie.
Où vous sentez-vous le plus à l'aise ?
À Paris. C'est là que j'habite et j'aimerais y chanter plus souvent. Mais lorsqu'on est un artiste français, on chante partout sauf en France. Et lorsqu'on est allemand, on travaille partout sauf en Allemagne. Il semble que ce soit le cours des choses.
J'espère que tous vos projets d'engagement et de rôle se concrétiseront et je vous remercie de m'avoir accordé cette interview. Exercice 2. Vous allez écouter le témoignage de 4 personnes concernant le rôle des femmes en politique. Associez les 4 témoignages aux affirmations correspondantes. Attention, il y a 2 affirmations intruses. Vous écouterez l'enregistrement 2 fois. Vous avez maintenant 30 secondes pour lire les affirmations. Première personne.
Le monde politique est ultra violent et on utilise tout ce qui est possible pour vous désinguer. Le fait que vous soyez une femme pouvant être un argument utilisé contre vous. Mais être une femme peut s'avérer être un atout. Il y a beaucoup d'électeurs qui préfèrent les femmes comme candidates aux élections parce qu'ils croient que nous sommes plus honnêtes. Ils ont une image positive de nous, que ce soit fondée ou non.
Deuxième personne. Les femmes dans la politique ? N'importe quoi ! Les mains des femmes ne sont pas faites pour le pugilat de l'arène publique. Elles sont faites pour être baissées. Baissées dévotement quand ce sont celles des mères. Amoureusement quand ce sont celles des femmes et des fiancées. Séduire et être mère, c'est pour cela qu'est faite la femme. Elle oublierait fatalement ses devoirs de mère et ses devoirs d'épouse si elle abandonnait le foyer pour courir à la tribune. Troisième personne. La loi garantit à la femme dans tous les domaines des droits égaux à ceux de l'homme. Malgré cette égalité de droits, l'égalité n'est pas assurée dans les faits, même aujourd'hui, et l'exemple le plus flagrant est celui des femmes au sein du monde politique. Dans notre pays, 54% des électeurs sont des femmes, mais elles ne représentent pourtant que 5% des parlementaires. L'Hexagone est loin d'acquérir la parité. Il se trouve derrière plusieurs pays, comme la Suède ou la Finlande. Quatrième personne.
J'ai toujours pensé que les femmes sont plus capables de faire de la politique que les hommes. Habituée aux urgences domestiques, elle ne se laisserait pas impressionner par un petit coup de chaud professionnel et ferait moins subir leur stress aux autres. Selon la psychologie sociale, l'analyse du rythme cardiaque, de l'oppression respiratoire, de la tension musculaire et de la transpiration de couple en train de se disputer montre que les hommes sont plus réactifs. En supposant que nos réactions physiologiques ne changent pas totalement en arrivant au bureau, les femmes seraient donc en effet moins sensibles au stress.
Première personne.
Le monde politique est ultra violent et on utilise tout ce qui est possible pour vous désinguer. Le fait que vous soyez une femme pouvant être un argument utilisé contre vous. Mais être une femme peut s'avérer être un atout. Il y a beaucoup d'électeurs qui préfèrent les femmes comme candidates aux élections parce qu'ils croient que nous sommes plus honnêtes. Ils ont une image positive de nous, que ce soit fondée ou non.
Deuxième personne. Les femmes dans la politique ? N'importe quoi ! Les mains des femmes ne sont pas faites pour le pugilat de l'arène publique. Elles sont faites pour être baissées. Baissées dévotement quand ce sont celles des mères. Amoureusement quand ce sont celles des femmes et des fiancées. Séduire et être mère, c'est pour cela qu'est faite la femme. Elle oublierait fatalement ses devoirs de mère et ses devoirs d'épouse si elle abandonnait le foyer pour courir à la tribune. Troisième personne. La loi garantit à la femme dans tous les domaines des droits égaux à ceux de l'homme. Malgré cette égalité de droits, l'égalité n'est pas assurée dans les faits, même aujourd'hui, et l'exemple le plus flagrant est celui des femmes au sein du monde politique. Dans notre pays, 54% des électeurs sont des femmes, mais elles ne représentent pourtant que 5% des parlementaires. L'Hexagone est loin d'acquérir la parité. Il se trouve derrière plusieurs pays, comme la Suède ou la Finlande. Quatrième personne.
J'ai toujours pensé que les femmes sont plus capables de faire de la politique que les hommes. Habituées aux urgences domestiques, elles ne se laisseraient pas impressionner par un petit coup de chaud professionnel et feraient moins subir leur stress aux autres. Selon la psychologie sociale, l'analyse du rythme cardiaque, de l'oppression respiratoire, de la tension musculaire et de la transpiration de couple en train de se disputer montre que les hommes sont plus réactifs. En supposant que nos réactions physiologiques ne changent pas totalement en arrivant au bureau, les femmes seraient donc en effet moins sensibles au stress.
Fin de l'épreuve de compréhension orale. Merci.